Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La conversation et sélection du Reader's Digest. Au programme, ce n'est pas la première fois que les Iraniennes descendent dans la rue. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? Faites-vous du visionnement en rafale? Comment savoir si vos habitudes télé posent problème et comment y remédier? Et ces 8 choses pourraient se produire si la forêt amazonienne disparaissait. Bonne écoute!
Ce n'est pas la première fois que les Iraniennes descendent dans la rue. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? Un texte de Oma Odfar et Mona Tajali, paru le 19 octobre 2022 dans le magazine La Conversation. Le monde a les yeux rivés sur les images d'Iraniennes scandant le slogan « Femme, vie, liberté », organisant des manifestations, dansant dans les rues et brûlant leurs foulards devant des soldats armés. Ce courage rappelle leur participation massive aux manifestations qui ont suivi le résultat contesté de l'élection présidentielle de 2009, où la jeune Nega Aga Soltan avait été tuée par balle, victime de la brutalité du régime iranien. Le mouvement de contestation qui soulève actuellement le pays a été déclenché par la mort de Mahsa Amini, la jeune kurde iranienne qui a succombé à ses blessures après son arrestation pour avoir, selon la police, enfreint les lois conservatrices de l'Iran sur le port du hijab. La révolte populaire se poursuit malgré une intensification de la répression policière partout au pays, qui a fait plus de 200 morts en date d'octobre 2022 et des centaines de blessés, et a entraîné des milliers d'arrestations. Une vague de colère. Dans un geste sans précédent, des Iraniennes de tous les âges expriment leur soutien envers les manifestations en coupant leurs cheveux, symbole pré-islamique de deuil chez les femmes. Cette fois, c'est la mort en détention de la jeune Amini qui a déclenché les manifestations. Mais les revendications des citoyens contre l'oppression politique, les difficultés économiques, les catastrophes écologiques, la discrimination envers les minorités ethniques et religieuses, les institutions étatiques corrompues et non représentatives, ainsi que le mépris pour la vie et la dignité des citoyens, ont soulevé de nombreuses révoltes populaires au cours des dernières décennies. La République islamique continue de faire la sourde oreille face aux manifestations, affirmant que la mort de Mahsa Amini est le résultat d'une maladie. De la même façon, l'État avait tenté de camoufler ses gestes après avoir abattu un avion de ligne ukrainien en janvier 2020. Ces démentis laissent un goût amer aux Iraniens, désillusionnés par le régime théocratique. Ce nouveau mouvement de contestation, ayant à sa tête des femmes, appelle à la dignité, à un vrai changement et au respect des droits fondamentaux. Dans le passé, les Iraniennes ont toujours pris part aux manifestations, mais c'est la première fois que leurs revendications sont considérées comme celles de toute la nation. Les femmes revendiquent le changement, encore. De nombreuses femmes sont descendues dans la rue pour participer au renversement de la dynastie Pahlavi en 1979 et pour revendiquer la démocratie et la liberté d'expression sans discrimination fondée sur le sexe. Cependant, quelques semaines à peine après la Révolution, le clergé dirigeant conservateur accède au pouvoir, piétinant les modestes avancées accordées aux femmes sous l'Ancien Régime. Malgré leurs protestations, les Iraniennes ne reçoivent qu'un très faible appui de la part des hommes et des groupes politiques rivaux qui donnent la priorité à la position anticolonialiste du régime au détriment de la justice envers les femmes, temporairement, disent-ils. Découragées par l'indifférence des hommes, les Iraniennes organisent en mars 1979 l'une des toutes premières manifestations contre la théocratie. Le port obligatoire du voile, décrété par le régime islamiste comme symbole de son identité, demeure un point de litige entre le gouvernement et la société civile. Reconnaissant que l'extrémisme religieux met souvent l'accent sur le corps des femmes, comme le font d'ailleurs certains pays modernes, les Iraniennes continuent, autant dans la sphère privée que publique, à remettre en question la négation de leurs droits légaux et sociaux. À plusieurs reprises, comme nos recherches l'ont montré, les femmes de toute appartenance idéologique ont uni leurs forces pour faire valoir leurs revendications. Par exemple, des femmes prônant la laïcité et d'autres vivant selon des valeurs religieuses unissent leurs voix pour réformer certaines lois discriminatoires à l'égard des femmes concernant la famille dans les années 1990 et au début des années 2000. En outre, c'est la création d'un bloc pour le vote des femmes qui permet au candidat réformateur du clergé Mohamed Khatami d'assumer la présidence de 1997 à 2005, ce qui mène à de nombreux changements législatifs et à de nouvelles occasions politiques. Ce mouvement de réforme met l'accent sur une nouvelle idéologie religieuse, y compris une réinterprétation des textes sacrés axés sur la femme, aussi appelé féminisme islamique. Les conservateurs nerveux. Toutefois, ces progrès menacent l'élite ultra-conservatrice qui, sous le régime du nouveau président Mahmoud Ahmadinejad, commence à imposer des restrictions sur la presse féminine et de nombreuses organisations non gouvernementales de femmes. Les tenants de la ligne dure intimident également les militants pour les droits des femmes et les groupes d'étudiants universitaires progressistes. Pour plaire à l'élite conservatrice, le président Ahmadinejad renforce l'appareil répressif de l'État, créant notamment une force policière chargée de faire appliquer les lois très strictes sur le port du hijab, une décision applaudie par les conservateurs. En 2009, les espoirs des femmes sont ravivés lorsque les principaux candidats réformateurs à l'élection présidentielle, dans un effort pour gagner des votes, placent les préoccupations des femmes au cœur de leur campagne électorale. Malheureusement, à leur grande consternation, c'est le président Ahmadinejad qui remporte l'élection, ce qui déclenche une vague de manifestations où les femmes jouent un rôle de premier plan. Les soulèvements liés au mouvement vert permettent de rendre publiques les principales revendications de la population générale, y compris les droits civils et politiques de base, comme le droit à des élections justes, la liberté d'expression et la démocratie. Mais la puissante élite conservatrice non élue déchaîne les forces de l'ordre afin de réprimer brutalement les manifestations de 2009, forçant le mouvement féministe à battre en retrait. La candidature du religieux modéré Hassan Rouhani à l'élection présidentielle de 2013 incite les femmes à retourner aux urnes, menant à une victoire écrasante. Un contrôle total. Aux élections suivantes, les conservateurs écartent leurs principaux rivaux pour reprendre le contrôle du Parlement et de la présidence en 2021, malgré une participation électorale au plus bas depuis 1979. Maintenant en plein contrôle de l'État, le régime conservateur met en œuvre de nombreuses restrictions, exhortant les forces de l'ordre à multiplier la surveillance et les interventions à l'égard des personnes remettant en question le statu quo, y compris les femmes s'opposant au port obligatoire du voile. Les manifestations déclenchées en septembre 2022 se poursuivent et les violences répressives du régime se multiplient. Malgré la censure de l'Internet, les Iraniens, indépendamment de leur sexe, de leur ethnie, de leur classe sociale, de leur âge ou de leur idéologie, semblent s'exprimer d'une même voix en organisant des manifestations aux quatre coins du pays pour dénoncer leur mécontentement face au régime théocratique. On ne sait pas encore si ce mouvement mènera à une révolution politique. Plusieurs sont d'avis que la révolution a déjà eu lieu, étant donné l'appui grandissant de la société civile envers les demandes formulées par les femmes et les minorités dans ces manifestations pour une véritable démocratie et le respect des droits de la personne. La question est maintenant de savoir si cette solidarité durera et si le régime iranien sera enfin disposé à faire preuve d'ouverture. C'était « Ce n'est pas la première fois que les Iraniennes descendent dans la rue, cette fois-ci sera-t-elle la bonne ?» Un texte de Oma Otfar et Mona Tajali, paru le 19 octobre 2022 dans le magazine La Conversation. Faites-vous du visionnement en rafale? Comment savoir si vos habitudes télé posent problème et comment y remédier? Un texte de Mark Griffiths, paru le 17 décembre 2021, dans le magazine La Conversation. Le terme « binge-watch », visionné compulsivement ou en rafale, était en lice pour le mot de l'année du dictionnaire Oxford en 2013. Bien qu'il n'ait pas été retenu, c'est « selfie » qui a remporté la palme, cela a mis en évidence l'essor d'une activité populaire qui consiste à regarder d'un coup plusieurs épisodes d'une série télévisée. De nos jours, des millions de personnes, dont moi, consomment régulièrement leurs séries préférées de cette manière que la prolifération des services de lecture en continu a rendu facile. Comme on pouvait s'y attendre, les études démontrent que pendant le confinement dû à la COVID, beaucoup de gens ont passé plus de temps à faire du visionnement en rafale que d'habitude. Mais cela peut-il devenir un problème ou une dépendance? Et s'il vous est impossible d'arrêter, que pouvez-vous faire? Pour savoir si la situation est problématique, ce n'est pas une question de nombre d'épisodes regardés, bien que la plupart des chercheurs s'accordent pour dire qu'il faille au moins 2 épisodes consécutifs, ni de quantité d'heures passées devant la télévision ou l'écran d'ordinateur. Comme pour d'autres comportements qui entraînent une dépendance, il est plus important de savoir si la compulsion a un impact négatif sur d'autres aspects de la vie de la personne concernée. Mes nombreuses années d'études sur les dépendances m'ont amené à constater 6 éléments essentiels des comportements de dépendance. En ce qui concerne le visionnement en rafale, cela signifie que 1. Le visionnement d'émissions est ce qui est devenu le plus important dans la vie de la personne. Prépondérance. 2. La personne fait du visionnement en rafale pour changer son humeur, c'est-à-dire pour se sentir mieux à court terme ou pour échapper temporairement à quelque chose de négatif dans sa vie. Modification de l'humeur. 3. Le visionnement excessif compromet des aspects importants de la vie de la personne, comme les relations, l'éducation ou le travail. Conflit. 4. Le nombre d'heures que la personne passe à regarder des émissions chaque jour a augmenté de manière significative au fil du temps. Tolérance. 5. La personne éprouve des symptômes de sevrage psychologique ou physiologique si elle ne peut pas faire du visionnement en rafale. Manque. 6. Si la personne parvient à arrêter temporairement sa compulsion, lorsqu'elle reprend l'activité, elle retombe directement dans le cycle dans lequel elle se trouvait auparavant. Rechute. À mon avis, toute personne qui répond à ces 6 critères est réellement dépendante du visionnement en rafale. Une personne pour qui certains de ces critères ne s'appliquent pas peut avoir un problème de visionnement compulsif, mais ne serait pas classée comme dépendante selon mes critères. Comme bien d'autres dépendances comportementales telles que celles au sexe, au travail et à l'exercice, la dépendance au visionnement n'est reconnue dans aucun manuel de psychiatrie. Nous ne disposons pas non plus d'estimations précises de sa prévalence. Mais la recherche sur ce phénomène progresse. Coup d'œil aux données. Dans la dernière étude publiée sur le sujet, une équipe de scientifiques polonais a interrogé 645 jeunes adultes qui ont tous déclaré avoir regardé au moins 2 épisodes d'une émission en une seule fois. Les chercheurs ont voulu comprendre certains des facteurs sous-jacents du visionnement compulsif problématique. Les auteurs, qui ont fondé leur définition du visionnement en rafale problématique en partie sur mon modèle des éléments de la dépendance, ont utilisé un questionnaire qu'ils avaient élaboré dans une étude antérieure pour évaluer le visionnement compulsif chez les participants. Parmi les questions posées, citons « À quelle fréquence négligez-vous vos obligations pour regarder des séries? À quelle fréquence vous sentez-vous triste ou irrité lorsque vous ne pouvez pas regarder des séries télévisées? Et à quelle fréquence négligez-vous votre sommeil pour regarder des séries en rafale? » Les participants devaient donner des réponses sur une échelle de 6 points allant d'un « jamais » à 6 « toujours ». Un résultat supérieur à un certain nombre de points était considéré comme une indication d'un problème de dépendance. À l'aide d'une série d'autres barèmes, les chercheurs ont constaté que la difficulté à contrôler ses impulsions, le manque de préméditation, difficulté à planifier et à évaluer les conséquences d'un comportement donné, le fait de regarder des séries pour fuir et oublier ses problèmes ou pour éviter de se sentir seul figurait parmi les prédicteurs les plus significatifs du visionnement en rafale à caractère problématique. En utilisant les mêmes données, les scientifiques ont rapporté dans une étude précédente que le visionnement compulsif présentait une association significative avec le syndrome anxio-dépressif. Plus les symptômes d'anxiété et de dépression d'une personne étaient importants, plus le visionnement en rafale était problématique chez elle. D'autres études ont fait état de résultats similaires. L'une d'elles, qui portait sur des adultes à Taïwan, a révélé que le visionnement en rafale excessif était associé à la dépression, à l'anxiété sociale et à la solitude. Une étude américaine a montré que ce comportement était associé à la dépression et à un attachement anxieux. La plupart des études connexes, comme celle-ci, réalisée au Portugal, ont également montré que le visionnement excessif était souvent causé par un désir de fuite. Pour ce qui est des traits de personnalité, la recherche a montré que le visionnement compulsif problématique semble être lié à une faible conscienciosité, avec tendance à l'impulsivité, à la négligence et à la désorganisation, et à un important névrosisme, avec anxiété et tendance aux émotions négatives. Nous observons ce type d'association dans les comportements de dépendance de manière plus générale. Rompre la dépendance. Si vous souhaitez réduire le nombre d'épisodes que vous regardez d'un coup, je vous suggère d'arrêter au milieu d'un épisode. Il est très difficile d'arrêter à la fin, car cela se termine souvent avec un suspense. Je conseille également de fixer des limites quotidiennes réalistes. Pour moi, c'est 2h30 si j'ai du travail le lendemain ou jusqu'à 5h si je n'en ai pas. Et commencez à regarder pour vous récompenser seulement après avoir fait tout ce que vous deviez faire en termes de travail et d'obligations sociales. N'oubliez pas que la différence entre un enthousiasme sain et une dépendance est que le premier ajoute à votre vie alors que la seconde vous en détourne. Si vous avez l'impression que le visionnement en rafale est envahissant, vous devriez demander à votre médecin de vous orienter vers un psychologue clinicien. La plupart des dépendances sont des symptômes d'autres problèmes sous-jacents. C'était « Faites-vous du visionnement en rafale ? Comment savoir si vos habitudes télé posent problème et comment y remédier ?» Un texte de Mark Griffiths, paru le 17 décembre 2021, dans le magazine La Conversation.
Ces 8 choses pourraient se produire si la forêt amazonienne disparaissait, un texte de Léla Nargi, paru le 9 août 2022, dans le magazine Sélection du Reader's Digest. La forêt amazonienne, connue comme le poumon de la Terre, s'étend sur 9 pays, majoritairement au Brésil. L'Amazonie rétrécit néanmoins à un rythme alarmant, et si elle venait à disparaître, les effets sur notre planète seraient dévastateurs. La forêt amazonienne chevauche la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane française, le Pérou, le Suriname, la Guyane, le Venezuela et surtout, à plus de 60%, le Brésil, qui perd graduellement sa bataille contre la déforestation. Avant les années 1970, la vaste bande de forêt tropicale humide, qu'est la forêt amazonienne, comprenait, rien qu'au Brésil, 3,99 millions de kilomètres carrés. Mais ce chiffre n'a cessé de décliner depuis. Petit à petit, la forêt amazonienne est non seulement détruite par l'exploitation forestière illégale, mais aussi par les plantations de soja et l'élevage de bétail, dénonce l'ONG Greenpeace. En 2018, la partie brésilienne de la forêt amazonienne ne s'élevait plus qu'à 3,3 millions de kilomètres carrés. Le nouveau gouvernement brésilien, Jair Bolsonaro, au pouvoir depuis 2019, n'a pas les positions les plus vertes. Les environnementalistes prévoient donc que la superficie de la forêt chute rapidement dans les prochaines années. La forêt amazonienne renferme 10% de toutes les espèces végétales et animales du monde. Cette forêt tropicale emmagasine également 100 milliards de tonnes métriques de carbone et, selon la World Wildlife Fund Canada, elle filtre le dioxyde de carbone de l'air et contrôle le climat par évapotranspiration. Voyons ce qui se passerait si la forêt amazonienne venait à disparaître complètement, emportant avec elle ses mystères inexpliqués, et ses 30 millions d'habitants. Précipitation défaillante. Une étude publiée en 2012 dans la revue Nature a montré que l'Amazonie était responsable de l'apport en pluie des régions environnantes. Or, la déforestation peut réduire les précipitations attendues sur un vaste secteur sur une période donnée, même si elle stimule l'augmentation des précipitations sur le coup. La déforestation pourrait fortement réduire les précipitations dans les parties non boisées du sud du Brésil, une riche zone agricole, ainsi qu'au Paraguay et en Uruguay. Augmentation de la sécheresse. Que se passe-t-il lorsque les précipitations sont plus faibles? Il y a moins d'eau à boire. Une des récentes sécheresses de São Paulo, au Brésil, a d'ailleurs été exacerbée par la déforestation de l'Amazonie. Moins de pluie signifie également qu'il y a moins d'eau pour l'agriculture. Pourtant, les précipitations en Amazonie aident à fournir de l'eau aux producteurs de soya et aux éleveurs de bœufs qui défrichent la forêt, selon le National Geographic. Les sécheresses ne feront que s'aggraver à mesure que davantage d'arbres seront abattus, menaçant l'approvisionnement en nourriture et en eau potable de toutes les régions avoisinantes. Augmentation des gaz à effet de serre. La déforestation de la forêt amazonienne nous conduit tout droit vers une ère de transition dans laquelle d'énormes quantités de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète seront libérées, toujours selon le National Geographic. Adriane Esquivel-Muelbert, écologiste brésilienne qui étudie les impacts du changement climatique sur les forêts, en particulier sur l'Amazonie, explique que les émissions de dioxyde de carbone augmenteront si massivement que tout le monde sur Terre en souffrira. La qualité de l'air sera moindre et les températures mondiales seront plus chaudes, causant à leur tour une foule de conséquences environnementales. Augmentation des inondations. L'Amazonie fait déjà face à une réduction des précipitations d'environ 25% dans certaines régions. Lorsque les pluies arrivent, le sol est tellement sec qu'il n'absorbe pas l'eau et ces pluies entraînent des inondations massives. Ce scénario, des périodes de sécheresse plus longues suivies d'une augmentation des inondations, ne ferait que s'intensifier si la superficie de la forêt amazonienne devait être réduite à nouveau par la déforestation. Le National Geographic note aussi que le climat en général oscillera et que les conséquences se feront sentir de loin. Perte de la biodiversité. Abritant un nombre impressionnant d'espèces de plantes, d'animaux, d'insectes et de champignons, la forêt amazonienne abrite un riche éventail de la vie qui existe sur Terre, d'autant plus qu'en moyenne, une nouvelle espèce est découverte chaque jour. Déjà en 2012, le journal britannique The Guardian sonnait l'alarme sur les espèces menacées et en voie de disparition, rapportant que beaucoup risquent une lente condamnation à mort alors que leur taux de reproduction chute et que la concurrence pour la nourriture devient plus intense. Détruisez l'Amazonie et une grande partie de cette diversité sera détruite en même temps, anéantissant tout un écosystème. Perte de possibilités médicales. Pourquoi les humains devraient-ils se soucier de cette perte de biodiversité? Bien que ce soit une sorte de cliché de dire que le remède contre le cancer pourrait se trouver en Amazonie, il s'agit aussi en quelque sorte d'une vérité a déclaré l'écologiste brésilienne Adriane Esquivel-Muelbert au National Geographic. Comme le souligne l'ONG Rainforest Trust sur son site web, près de 90% des maladies sont traitées avec des médicaments dérivés d'éléments naturels, comme le venin de serpent, les moisissures ou encore un arbuste du nom de pervenche, un genre de plante vivace herbacée dont les origines sont en Amazonie. Combien de futurs remèdes seront perdus avec la disparition de la forêt amazonienne? Personne ne le sait. Augmentation des feux de forêt. La déforestation de l'Amazonie entraîne aussi une augmentation de la taille, de la fréquence et de la durée des incendies de forêt. Ces incendies libèrent davantage de carbone dans l'atmosphère, aggravant certaines des conditions déjà mises en évidence, telles qu'un climat de plus en plus chaud. Augmentation de la pauvreté. L'Amazonie abrite non seulement une faune et une flore impressionnantes, mais aussi des personnes dont beaucoup dépendent de la forêt amazonienne pour subsister. Toutes les forêts tropicales du monde fournissent de la nourriture, une sécurité énergétique, des revenus et des plantes médicinales à plus de 300 millions de personnes. À mesure que les forêts s'effondrent, les personnes qui en dépendent s'appauvrissent. Sans les forêts, les gens migrent vers les grandes villes ou se déplacent vers des pays plus nantis à la recherche de travail. C'était « Ces huit choses pourraient se produire si la forêt amazonienne disparaissait », un texte de Léla Nargi, paru le 9 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Luc Mercure et Lynn Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.